Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la troisième séance du cycle Penser l'économie depuis les Suds. Je suis Mariem Tamoussanang du podcast Afrotopique et ce soir j'ai le grand plaisir de recevoir l'historienne Lycelle Quiros, co-autrice du livre Penser décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Alors tout d'abord, quelques mots sur la proposition éditoriale du cycle Penser l'économie depuis les Suds. Comme vous le savez peut-être, Afrotopique, c'est un podcast d'idées, de pensées critiques, mais c'est surtout un espace de propositions et de formulations de voies alternatives pour envisager un monde vivable, durable et habitable par toutes et tous. Et pour cela, quoi de mieux que de réfléchir depuis la perspective des Suds, et plus précisément, à partir des sociétés qui ont le mieux résisté à la modernité industrielle, productiviste et capitaliste. Puisque, je le rappelle, ce ne sont pas les modes de vie... Bonsoir, installez-vous. ce ne sont pas les modes de vie du plus grand nombre qui posent problème, mais bien plutôt ceux d'une minorité qui a du mal à se projeter dans d'autres manières d'habiter le monde. Donc ce cycle, Penser l'économie depuis les Suds, c'est une invitation à pratiquer le décentrement, à élargir les horizons de notre réflexion, en les enrichissant de points de vue qui déstabilisent les cadres de notre pensée pour en élaborer de nouveaux et le faire collectivement. Un grand merci à toute l'équipe de la Gaîté Lyrique qui accueille cette série de rencontres. Et merci également à la librairie La Brèche, partenaire de l'événement, qui nous propose un fabuleux stand de livres à la sortie de l'auditorium. Sans plus attendre, merci d'accueillir Lycelle Quiros. Bonsoir Lycelle.
Bonsoir Marie-Emta, merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien, tu m'as devancée, j'allais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Je vais te présenter. Lycelle, tu es péruvienne, tu es docteur en histoire, professeure d'études latino-américaines à CY, Cergy Paris Université. Dans ton parcours de chercheuse, tu t'es d'abord intéressée à l'histoire de la justice au Pérou. Et aujourd'hui, tes recherches portent principalement sur l'histoire des femmes, des féminismes et de la santé dans les Amériques entre les 19e et 20e siècles. Tu es l'autrice de Mettre au monde, publié en 2022. C'est un travail de recherche en histoire de la médecine au Pérou que tu abordes dans une perspective féministe et décoloniale. Tu produis également un podcast indépendant qui s'appelle Notre histoire, N'autre. Donc, Notre histoire, c'est un podcast dans lequel, une fois par mois, tu partages et tu présentes un événement historique du point de vue des subalternes. Aujourd'hui, je te reçois car, en 2023, tu as publié Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. C'est paru à La Découverte et c'est un livre que tu as coécrit avec Philippe Collin, qui est maître de conférences en civilisation de l'Amérique latine à l'Université de Limoges. C'est un livre important, voire même fondamental, parce que la théorie décoloniale, c'est l'un des courants les plus importants et structurants de notre époque. Et pourtant, dans l'espace francophone, sa réception est encore assez limitée, voire empêchée, pour une série de raisons, notamment l'absence de traduction. Et ça a laissé le champ ouvert à de nombreuses et très erronées présentations de ce corpus théorique. Heureusement, maintenant, il y a le livre. C'est la première grande synthèse en français qui offre un panorama très complet des auteurs, des concepts, de la généalogie des courants et des sous-courants, de ce que l'on va appeler ici les pensées décoloniales ou les théories décoloniales, qui, chacune à leur manière, nous invitent à regarder notre monde contemporain à travers le prisme des structures coloniales de la modernité. Dans l'introduction, vous écrivez que la conquête n'est pas un événement, elle est une structure. Et moi, ce que je comprends, c'est que la perspective décoloniale, c'est d'abord un regard qui reste attentif aux structures de la colonialité et qui, dans le même temps, est attentif à ce qui échappe à ces structures, à ce qui s'en défait et ce qui se construit dans ses marges, en dehors de toute référence à cette matrice. Parce que l'enjeu de fond, ça reste de décoloniser le monde, qui demeure profondément structuré par des rapports de domination coloniaux. Et toute la question, c'est de savoir comment s'y prendre. Donc, Gisèle, tu as 45 minutes pour nous expliquer cela. Non, je plaisante. Mais pour commencer et poser le cadre, est-ce que tu peux nous brosser à grands traits la fresque de la théorie décoloniale ? Quand est-ce que le mouvement apparaît, se construit ? À partir de quel constat de départ ? Quels en sont les principaux courants, les grandes figures et les idées principales et les dates importantes ?
Merci Marie-Emta. Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer sur cette question de la théorie décoloniale, peut-être vous expliquer un petit peu comment est venue l'idée du livre. L'idée du livre, elle est venue du fait que ce qualificatif, ce terme de décolonial est arrivé en Europe et plus particulièrement en France depuis le début du siècle, notamment à partir de 2010, il s'est beaucoup diffusé et il est beaucoup employé sans que forcément, enfin aujourd'hui, et c'est logique, enfin un terme circule, et il a des acceptions diverses en fonction des personnes qui s'en réclament ou qui l'utilisent et qui s'y retrouvent. Et on oublie, alors ce qui arrive souvent dans un espace du Nord global, c'est-à-dire un Nord politique, un Nord qui a un espace qui a le pouvoir, c'est qu'il invisibilise des espaces minorisés subalternes. Et en l'occurrence, dans des coloniales, on oubliait, ou en tout cas nous, on ne voyait pas que la partie de l'Amérique latine. Alors je vais commencer par l'Amérique latine, peut-être ensuite je nommerai différemment, mais déjà l'Amérique latine, parce que cette théorie décoloniale, le courant décolonial, il est présent dans ce qu'on appelle ici l'Amérique latine depuis les années 1990, donc vraiment une vingtaine d'années avant qu'il arrive en Europe. Il existait déjà, il était déjà dans une conceptualisation, c'est-à-dire qu'on commençait à penser ce que ça pouvait dire ce mot de décolonial, surtout à partir de l'idée de colonialité et colonialité du pouvoir, qui est un concept forgé par un penseur qui s'appelle Aníbal Quijano au Pérou, à un moment particulier qui est celui de 1992. En 1992, en Espagne, l'Espagne qui vient d'entrer depuis quelques années, en 86, rentre dans l'Union européenne. Elle est sortie d'une période du franquisme. Elle est en plein développement, on va dire, économique. Elle souhaite commémorer les 500 ans de la découverte de l'Amérique avec véritablement toute une mise en scène qui est celle de reproduire le voyage depuis l'Espagne jusqu'à la Caraïbe avec les caravelles, des personnages, etc. Et en même temps, en 1992, il y a aussi toutes des expositions, un projet d'exposition qui rappelle fortement les expositions coloniales, celle de Séville, par exemple. Donc tout ça, dans ce contexte-là, les peuples autochtones d'Amérique latine se disent c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que c'est ce revival de la colonisation ? Et déjà, ils proposent un terme nouveau ou autre alternatif à celui d'Amérique, qui est un terme colonial, et donc il propose celui d'Abiyala, qui est un terme autochtone, Kuna, qui est un nom que ce peuple donnait au continent. Et puis, surtout, un certain nombre de penseurs, dont Aníbal Quijano, pensent cette question de... Alors, en fait, 500 ans après ce début de colonisation, parce que pour nous, donc 1492, et c'est ce qui définit, en fait, pour nous... la théorie décoloniale, c'est ce moment en fait de début de la colonisation. Et on l'a oublié, par exemple, en France. En France, parce que la France a son propre passé colonial, sa propre histoire coloniale, eh bien, elle sort. Et aujourd'hui, bon, l'Espagne et le Portugal ont bien travaillé pour défaire en fait cette histoire coloniale très ancienne. Mais la colonisation donc commence en cette fin de XVe siècle, autour du moment 1492, un moment, on dit Philippe et moi-même, dans le sens où ce n'est pas le 12 octobre exactement 1492, mais disons cette fin du XVe siècle où l'Espagne, qui a fini de conquérir un territoire, parce qu'elle n'est pas en reconquête, mais en conquête de ce territoire, et qui chasse de son espace qu'elle a pris, en tout cas, ses royaumes catholiques, qui ont occupé cette péninsule ibérique, chasse les musulmans et les juifs et commence une démarche de colonisation, de conquête d'autres territoires, l'Afrique, les Canaries. À la fin du XVe siècle, sont déjà aux Canaries, avec déjà des politiques ou des procédés, des techniques de colonisation. Puisque, par exemple, le peuple autochtone des Canaries, il est décimé, il est exploité. Ce sont les Guanches, et donc il y a déjà un génocide qui se produit, une exploitation économique. Et puis, à partir de là aussi, ça servira pour arriver dans la Caraïbe. Donc, il y a toute une logique déjà coloniale qui se met en place. Et ce que dit le courant décolonial d'Abiayala, donc de l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit ou qu'on développe par ailleurs dans d'autres courants critiques qui sont, pour nous, proches, est très, très enrichissant, très stimulant, parce qu'il nous donne beaucoup d'idées. Là, je parle donc du courant postcolonial et le courant des Subaltern Studies. Eh bien, on pose la question du fait colonial, sauf que pour les postcolonial studies et les Subaltern Studies, on est plus centré sur des références d'empires coloniaux que sont la France et l'Empire britannique. Et donc, dans cette histoire coloniale, c'est surtout les 18e et 19e siècles qui sont très marquants et sont des moments forts de cette colonisation. Mais ce que dit la théorie décoloniale d'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en fait, ces empires coloniaux, certes, au XVIIIe, XIXe, ce sont l'Empire français et l'Empire britannique, mais qu'au XVIe siècle, à la fin du XVe siècle et durant tout le XVIe siècle, les grandes puissances coloniales, ce sont l'Espagne et le Portugal. Et déjà, ces deux puissances sont en train d'élaborer, en fait, cette modernité-colonialité dont parle la théorie décoloniale, c'est-à-dire la modernité que... S'il y a des personnes qui ont fait un petit peu d'histoire, qui ont fait des études d'histoire, donc on nous dit que la modernité commence à l'époque des Lumières, eh bien de se dire, pour nous, non, la modernité, elle commence à la fin du XVe siècle, autour de 1492. Ce sont les premiers moments de la formation de ces empires coloniaux et de techniques de colonisation qui vont se poursuivre et vont se réinventer, se perfectionner, on pourrait dire même, au fil du temps, et on va être prise en main par d'autres puissances coloniales, et surtout qu'elles n'ont pas terminé avec les mouvements ou les phénomènes ou les de décolonisation, d'indépendance. En Amérique latine, on appelle au XIXe siècle les indépendances. Donc, juste au moment où on dit que en fait commence ou se développe la modernité, l'Amérique latine est dans une phase qu'elle appelle ou qu'elle historiquement les indépendances, et que donc ces indépendances ne changent pas véritablement ou ne finissent pas avec des formes de domination coloniale qui se perpétuent après ces indépendances. Et puis on observe aussi que c'est les mouvements dits de décolonisation du XXe siècle qui concernent l'Asie et l'Afrique, eh bien, ne sont pas non plus des formes décoloniales. Et c'est là que vient cette théorie décoloniale, à dire que la modernité et surtout la colonialité, qui vont ensemble, d'ailleurs vont de pair, ce sont les deux faces de la même monnaie. Il y a toujours... Alors, qu'est-ce qu'on entend ou qu'on... Pour les personnes peut-être qui ne seraient pas familiarisées avec ce terme, la modernité, c'est toute cette forme qu'a le pouvoir colonial, de présenter les choses de manière très attirante, de nous dire, par exemple, et ça s'est resté jusqu'à aujourd'hui, l'idée que tout ce qui est moderne est bon, est beau, est meilleur. Cette idée positiviste de que ce qui est moderne est plus performant, est meilleur, est plus développé, enfin, lié, d'ailleurs, toutes les notions économiques qui sont liées à cette modernité. On a les nouveaux téléphones, les nouveaux ordinateurs. La colonialité, c'est tout ce qui est derrière cette fabrication, l'exploitation de millions de personnes qui vivent dans des conditions infrahumaines, qui ne sont pas justement considérées comme des personnes. hein, et qui sont exploités à ce titre, des enfants, comme au XVIe siècle, comme à la fin donc, de ce XVe siècle, pour l'exploitation jusqu'à épuisement de richesses minérales, de richesses donc des personnes, mais aussi des richesses animales et minérales pour ces bénéfices-là. Donc ça, ça n'a pas changé. C'est pour ça qu'on l'appelle colonialité. Alors, Quijano l'appelle colonialité. Je trouve que c'est un terme qui est très parlant parce qu'à la fois, on entend colonisation et en même temps, on se dit que ce n'est pas exactement la colonisation. Pour Aníbal Quijano et pour les penseurs de la théorie des coloniales, la colonialité, c'est ces formes de domination qui commencent donc... pour nous, c'est élaboré à la fin du XVe siècle, mais qui n'ont pas fini, qui ne sont pas terminés. Il n'y a pas eu de coupure, en fait, ni au XIXe, ni au XXe siècle. Et on n'est pas, donc, pour nous, pour la théorie des coloniales, on n'est pas dans un moment post-colonial, ni néo-colonial. C'est la colonialité, en fait, c'est la même... Enfin, disons, c'est la même matrice. Et comme dans tout, beaucoup de phénomènes historiques, il y a des transformations, il y a des changements, par exemple, de puissance. On n'est plus dans les puissances coloniales du XVIe siècle, mais aujourd'hui non plus. Enfin, on a réélaboré, c'est-à-dire au XXe siècle, les États-Unis deviennent une grande puissance, c'est une puissance impériale. Et donc, il y a beaucoup aussi d'éléments de domination, de pouvoir colonial. Alors même que c'est en plus un État qui se dit en fait être héritier de cette histoire coloniale, d'avoir lui-même été une colonie, mais qui devient une puissance impériale, coloniale. Donc ça se développe un peu partout, dans le contexte contemporain. Israël est une puissance coloniale. Alors même que, enfin, on a changé. Donc dans le temps, il y a des changements qui sont des évolutions historiques, mais on a une matrice qui est celle des formes de domination qu'on retrouve, en fait, et ce qui me paraît intéressant dans le concept d'Aníbal Quijano, c'est de montrer la continuité plus que la rupture. Alors pourquoi d'emblée? Parce que quand on dit, alors c'est intéressant aussi le terme de néocolonialisme, hein, se dire, bon, en fait, il y a des nouvelles formes. Alors, dans notre expérience latino-américaine, souvent on nous a dit, oui, ben, mais maintenant c'est vous. En fait, c'est vous. Hein, vous êtes devenu indépendant, ça fait 200 ans. En fait, on a fêté, c'est vrai, les indépendances, 200 ans d'indépendance. Donc, en fait, tout ce qui est effectivement de colonisation, par exemple, de l'Amazonie, l'exploitation, la surexploitation de cette forêt, eh bien, c'est votre faute. Enfin, c'est le Brésil, c'est le Pérou, c'est la Colombie. Donc, c'est vous qui êtes responsable de votre propre destruction de votre territoire. Or, on oublie que, par exemple, dans ces États, eh bien, celles et ceux qui ont pris, enfin ceux surtout qui ont été au pouvoir et qui ont perpétué ces formes de domination coloniale, eh bien, c'était des descendants des colonisateurs, hein, pour tous dans ces pays, des Blancs, avec une culture occidentale. Et donc, ces formes, ils n'ont juste repris les formes ou des techniques de domination qu'avaient leurs ancêtres, leurs grands-parents, par exemple. Donc, c'est pourquoi le terme de colonialité me paraît très pertinent pour voir cette continuité. C'est vrai que la théorie des coloniales donc, insiste beaucoup, et c'est la différence peut-être avec les courants, notamment postcoloniales, où eh bien, cette matrice coloniale, la colonisation, on vient souvent à rappeler beaucoup plus, hein, de manière plus marquée, plus accentuée, le lien avec la colonisation et une colonisation très ancienne. Donc, c'est au moment 1492. Et enfin, ce que dit Aníbal Quijano, c'est que lui, c'est un marxiste qui a participé dans les mouvements sociaux du Pérou des années 60-70 et qui arrive aux États-Unis à travailler avec Emmanuel Wallerstein qui travaille déjà sur la question du système monde, c'est-à-dire comment le capitalisme a pu se développer à manière d'une échelle globale. Et Quijano propose cette idée de colonialité du pouvoir en disant bah, le capitalisme il s'est développé grâce à la race. C'est parce qu'on a construit et inventé la race. C'est grâce à la race. Aníbal Quijano dit la race est l'instrument de domination le plus efficace inventé depuis 500 ans et qui est présent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la race n'est pas une invention du 18e ni du 19e siècle, c'est une invention ibérique hein, de la fin du XVe siècle. Quel est donc et ça peut paraître justement depuis l'espace français, depuis ce lieu d'énonciation qui est la France, de dire mais qu'est-ce que c'est ? On nous a appris, enfin nous, la race 18e, 19e. Les races, à la fin du XVe siècle, eh bien, ce sont les Européens qui arrivent, et ce qu'on va appeler, et qu'aujourd'hui on a normalisé cette expression d'Indiens ou Amérindiens, comme on veut les appeler aujourd'hui, qui sont la première race subalterne. Parce que en 1492, le continent américain était le continent le plus peuplé du monde. 100 millions d'habitants, on ne sait pas très bien, entre 50 et 100, avec 700, 800 peuples différents qui vivent dans des milieux géographiques très, très différents, entre, par exemple, je sais pas, le nord du Canada et l'Amazonie, en passant par les Andes, des peuples qui vivent à 2000, 3000 mètres d'altitude, d'autres qui sont côtiers, avec des formes, donc des langues, des manières de concevoir le monde, des formes de vie, de consommation, d'alimentation, de spiritualité, de danse, etc., enfin, de culture tout à fait différente. Donc, indien, ça n'a aucun sens ni ethnique, biologique, ni culturel, puisqu'on a des peuples très, très divers, avec des formes même phénotypiques d'apparence physique très diverses par cette localisation géographique, et qui, en 1492, par le fait de cette colonisation, deviennent des Indiens. Des Indiens qui effacent leurs origines ou la manière dont tout peuple se définit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Mapuche, Sioux, Aguajung, Taínos, Chibchas, Charruas, Aymaras, Quechuas, c'est ça leur identité à ce moment-là, eh bien, elle va être effacée et réduite à une seule, celle d'Indien. En France, on est tellement, enfin, comme cette histoire n'est pas directement liée, on a normalisé hein, cette race, enfin, à tel point que aujourd'hui on pense qu'il y a quelque chose comme un peu culturel, sinon ethnique, mais parfois les deux vont ensemble, souvent dans cette question de la race, que c'est voilà une forme culturelle, mais en réalité c'est la première race. Et à partir de là, d'autres, par l'histoire propre et particulière d'Abya l'Amérique latine, eh bien c'est un continent qui va créer ou expérimenter en fait la création des autres races, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de là, de ce moment où se créent ces deux races, européens, indiens, le phénomène de colonisation et sa caractéristique, et c'est pour ça que je pense que colonialité est important ou en ce lien étymologique avec la colonisation, parce que ce qu'a la colonisation, c'est la destruction. En fait, c'est une logique destructrice des subalternes, donc à la fois un génocide souvent physique qui passe par l'exploitation. Alors, génocide, ça ne veut pas forcément dire hein, mettre tout le monde sur un espace et assassiner ou tirer sur ces personnes, mais de les tuer même à petit feu. C'est-à-dire, ça aussi, c'est une forme hein, génocidaire. C'est d'épuiser jusqu'au bout les personnes, jusqu'à ce qu'elles n'en peuvent plus. Donc, épuisement des personnes par l'exploitation, épuisement aussi des territoires, des ressources, des richesses, donc, et épuisement ou destruction, anéantissement des cultures. C'est ça, ce sont les logiques coloniales. Et ces logiques-là, on les voit durant ces cinq siècles. Les mêmes logiques, c'est-à-dire exploiter les personnes, les ressources et finalement tout l'espace. Et aujourd'hui, on est arrivé donc à un moment vraiment tellement global que presque toute la planète est incluse dans ces phénomènes. Et donc, à partir de l'épuisement et le génocide des autochtones, hein, en l'espace de 50-60 ans, 90% de cette population, par le fait de la colonisation, voilà, disparaît. Alors, certains vont immédiatement me dire, mais oui, les maladies, etc. Bon, Les maladies ne se déplacent pas seules. Les maladies sont des outils de guerre. Sont des outils de guerre pour ces centaines de personnes qui arrivent. Parce qu'en fait, chaque, par exemple, les voyages, les quatre voyages de Christophe Colomb, il transporte 100, 150 personnes. La conquête du Tahuantinsuyo, appelé Empire des Incas par les Européens, eh bien, elle se fait par 200 personnes maximum. Donc, bah, quelles armes, quelles meilleures armes que ces armes que sont les virus. Donc, c'est vrai, les virus ont été utilisés comme des armes de guerre, ça on le sait, durant toute la période de la colonisation, jusqu'au XVIIe siècle, aux États-Unis par exemple, ça aussi c'est documenté. Donc, ce génocide des populations autochtones, eh bien, il conduit dans les logiques colonisatrices et extractivistes de l'époque à ce qu'on remplace, à ce qu'on protège d'une part. Ça, c'est aussi des logiques qui restent jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a un petit peu décimé, presque exterminé, par exemple, une espèce animale. Les pandas, on se dit, bon, on va les protéger. Les éléphants, bon, on va se dire, on va les protéger. Juste, il reste 1%. Donc là, c'est vrai qu'on protège ce qui reste, le peu qui reste. Et donc, il y a cette protection, à ce moment-là, des Indiens. Peut-être que pour celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Amérique latine, il y a quand même une charge de protecteurs des Indiens. Bah oui, ils ont presque disparu. Donc là, à ce moment-là, on va les protéger. Et puis, il faut remplacer cette main-d'œuvre qui n'existe plus et commence dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, la traite transatlantique qui va créer ou imposer ou permettre des sociétés en fait raciales de se constituer. Et la race est toujours une construction arbitraire, une construction historique, sociale et arbitraire, qui a deux caractéristiques, et bien des fins économiques. Enfin, la race, elle n'est pas juste une vue de l'esprit de dire bon, bah, il y a des blancs, des noirs, des asiatiques. Non, ça sert, enfin, ce sont avec des logiques capitalistes, ça permet d'organiser une société pour des fins capitalistes. Et la nécessité aussi de la distinction raciale, c'est de faire rapidement la distinction. C'est-à-dire que les logiques sont surtout aujourd'hui très... Enfin, bon, toujours, en fait, mais depuis le XVIe siècle, je pense que pour les sociétés coloniales des Amériques, ça doit être très simple et rapide pour pouvoir distribuer qui travaille dans quoi. Enfin, les Noirs dans les plantations, les Autochtones dans les mines d'or et d'argent, les blancs sont dans les charges supérieures. Bon, ça doit être très facile à vue d'œil pour pouvoir organiser. C'est ça la logique.
Et ça correspond à un ordre qui permet, enfin qui est relativement accepté par tous. Et ça permet de ne pas avoir à remettre en question ces hiérarchies et distribuer très facilement les rôles assez inégaux dans le partage des tâches qu'on n'a pas tous et toutes envie de faire. Peut-être juste pour préciser, donc dans cette grande fresque des pensées décoloniales, y a trois courants, enfin il y a plusieurs courants que vous identifiez, mais tu commences dans le livre à présenter d'abord les subaltern studies, ensuite le courant postcolonial et le courant décolonial, parce qu'avant tout, en fait, la pensée décoloniale, ça reste un corpus de travaux universitaires. On est bien d'accord qu'on parle, en tout cas au départ. On parle beaucoup de... C'est des discussions d'universitaires, de chercheurs, de chercheuses, dans des universités d'ailleurs souvent américaines, même si ce sont des chercheurs qui ont des origines... qui sont originaires du continent d'Amérique du Sud. Donc, pour qu'on ait bien en place les différentes étapes et qu'on voit bien comment, à chaque fois... le lieu d'énonciation bouge un petit peu et affine la position qui est développée dans le corpus des pensées décoloniales.
Oui, alors juste peut-être petite incise avant. La théorie décoloniale, oui, elle est connue par ses références ou ses noms, comme d'ailleurs les autres théories de nous. pensée critique dont je vais parler. Mais je crois que ça, c'est ce qu'on appelle la colonialité du savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des penseurs ou des intellectuels universitaires. Il se trouve que quand ils sont universitaires, quand on est universitaire, quand on a produit un livre, je m'inclus, c'est-à-dire que la pensée du fait colonial et des conséquences du fait colonial, on n'est pas les seuls à se la poser. Et je pense que beaucoup de chercheurs et chercheuses, on la pense grâce à ce qu'on voit, à ce qu'on vit avec des collectifs dans notre vie quotidienne, dans la répartition. Bon, nous, avec nos étudiantes et étudiants, avec notre vie, etc. Mais parce qu'on a une position universitaire, c'est ça ce qu'on appelle la colonialité du savoir, parce qu'on a cette position privilégiée, de privilège, eh bien, c'est à partir de là qu'on considère qu'on est les représentants un peu de cette pensée. Mais cette pensée, en tout cas, en perspective décoloniale, elle est très, très, très marquée par les mouvements sociaux latino-américains. Et il faudrait... Et ça, c'est une critique au propre groupe modernité-colonialité, décolonialité. Bon, le groupe modernité-colonialité, décolonialité, qui est celui qui a diffusé, alors je parle de Quijano, Mignolo, Dussel, peut-être celles et ceux qui connaissent un petit peu, hein, Walsh, Santiago Castro Gomez, Nelson Maldonado Torres, etc., qui sont connus. Ils sont connus parce que c'est vrai qu'ils ont travaillé dans les universités états-uniennes. Parce que s'ils étaient, et on a des penseurs et des penseuses qui travaillent et qui vivent, et notamment des femmes, je pense à Yudelkis Espinosa, qui sont des féministes décoloniales, au Chico Uriel, qui travaille dans des universités de l'Amérique du Sud, enfin, vraiment en Colombie notamment, eh bien, elles sont beaucoup moins citées que Maria Lugones, par exemple, alors qu'elles sont dans les mouvements sociaux féministes. Ben, ça, c'est la colonialité, juste pour préciser que même là, voilà, on représente, mais on n'est pas les seuls. Et j'aimerais dire que ces courants, je pense, en tout cas pour le courant décolonial, il doit reconnaître la part de formation théorique ou de constitution théorique des mouvements sociaux. Alors, j'ai distingué, et pas parce que je veux, et de manière justement arbitraire, ces trois courants, mais je pense que les trois courants, que ce soit les subaltern studies, les postcolonial studies, et les théoriciens de la décolonialité, théoriciennes aussi, de la décolonialité d'Abiyala, posons la question du fait colonial. En fait, on part, et je crois que c'est ça la spécificité. Alors, on s'intéresse à l'histoire par voie de conséquence, parce que ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate, les trois courants ? C'est qu'aujourd'hui, on est encore marqué, on est dans des sociétés, justement, qui ne sont pas décolonisées. On n'est pas décolonisé, la race structure toutes ces sociétés, et à l'échelle globale, sauf qu'on regarde, et donc on se pose la question de depuis quand, comment, comment ça s'est produit, pourquoi aujourd'hui on entre, moi j'entre à l'université, les professeurs, les professeurs, le corps professoral en général, est d'une race, d'un statut social, a un capital économique et culturel, et nos étudiants, comment par exemple moi, Sergi, alors qu'en première année, moi je suis dans une UFR de langue et études internationales et de langue, donc en première année on a des étudiants plutôt en LEA, par exemple, très racisés. On passe en deuxième année, on commence à écrémer. On arrive au master, on a de plus en plus de blancs. Et puis, on arrive au doctorat. Et bon, voilà. Donc, comment, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que ces sociétés et que à l'entrée, le personnel de sécurité, on a des hommes noirs. Enfin, bon, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait et qu'on voit, justement, c'est pour ça que je disais, la race, elle sert à déterminer. C'est ce qui fait que à l'entrée, on va nous dire, toi, tu vas là. Là, ça, c'est la cafétéria pour aller travailler. Ça, c'est le ménage. Ça, c'est les bureaux pour la présidence. Bon, voilà. Vous allez dans l'amphi, etc. Donc, on se pose cette question de aujourd'hui, on part d'aujourd'hui. Sauf que on va lire, et donc on se pose la question de l'histoire. mais on lit cette histoire selon des lieux d'énonciation différents, ce qui fait qu'on pose des diagnostics et même des formes ou des références qui viennent de ces endroits-là. Alors, les subaltern studies sont notamment un mouvement, une théorie critique qui a été développée dans le sous-continent indien, dans la péninsule indienne, par des chercheurs et des chercheuses d'origine indienne, ou parfois qui travaillent en Europe ou aux États-Unis, mais qui partent de cette histoire, de cette région, et qui, dans une colonisation, qui est celle de l'Empire britannique, qui est particulière, par exemple, si on la compare à celle de la France, où le poids de l'archive ou le poids de l'écrit est beaucoup moins fort, la France a, dans cet espace héritier de la... des Romains, eh bien, la force de l'écrit est très très forte. Il y a une force à tel point, pour les historiens et les historiennes en France, il faut qu'on passe absolument par des archives écrites, sinon il n'y a pas d'histoire. Et eux, bon, sont moins marqués par ça, et donc vont travailler beaucoup plus la question de l'oralité, de l'histoire orale, et donc notamment, bon, cette notion très importante de Spivak, de subalterne. Qu'est-ce qu'un subalterne? Ceux qui n'ont pas accès à l'écrit, qui ne peuvent pas parler, qui sont parlés, mais qui ont une capacité d'action. Et comment on arrive à capter, à savoir, à voir donc cette capacité d'action? Et donc ça fait une histoire lue depuis cette perspective-là. Les post-colonial studies, alors, parlent depuis un autre espace, un espace européen, français. Je pense à Édouard Saïd, notamment, avec toute cette proposition très, très intéressante de comment on construit l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire la civilisation et la barbarie. Et ça, c'est lu depuis, par exemple, si on pense à Saïd et ses travaux sur l'orientalisme, eh bien, c'est à partir d'archives du 18e, 19e siècle, puisqu'il travaille sur la France, l'histoire de la France et de l'espace britannique. Et donc, en voyant ça à partir de ce moment-là, et sur des régions particulières, qui est l'espace méditerranéen, et tout particulièrement le Proche-Orient, le Nord, l'Afrique du Nord. Et donc, ça fait une lecture, en fait, de du fait colonial particulière. Et par exemple, et on est tout à fait, complètement... non seulement fasciné, mais très, très marqué par cette idée de comment on construit l'Orient, par exemple. L'Orient barbare, sauvage, sanguin, très par rapport à un Occident civilisé, raffiné, très marqué par la raison, justement. Et on se dit, bah oui, c'est exactement, c'est tout à fait... Enfin, nous, on vit ça aussi en Amérique latine. Alors, nous sommes des orientaux. En fait, nous sommes en réalité des orientaux, parce que nous correspondons aussi à la barbarie, c'est l'Amazonie, c'est les sauvages, les cannibales, les anthropophages. Bon, voilà. Donc, en fait, nous aussi, on est des orientaux, sauf que Saïd, et c'est logique, on ne va pas lui le reprocher, il ne pense pas à l'Amérique latine, il n'est pas en train de parler depuis ce lieu d'énonciation-là. Il pense ce qu'il a comme archive et comme accès à pour faire cette histoire. Et donc, il oublie l'Amérique latine. Et donc, c'est là que le courant décolonial va dire, oui, mais en fait, très bien, ça nous intéresse beaucoup. En fait, on est très... Et en même temps, presque, ça dialogue, en fait, ça circule. Ces recherches, se dire, mais vous oubliez l'Amérique latine. Et nous, cet Orient qui se construit, ou ces formes de division entre civilisation et barbarie, là, on l'a depuis le XVIe siècle. Enfin, c'est pas un hasard. Si Montaigne parle des cannibales, déjà, il y a déjà cette construction que tous ces autochtones sont des sauvages, et on construit déjà. Donc, on va bouger le curseur. C'est-à-dire, c'est pas au 18e, c'est pas au moment des Lumières où tout se construit comme pour les postcoloniaux, mais c'est en 1492. Et donc, cette proposition-là, c'est parce qu'on parle d'un autre lieu d'énonciation. Donc, en fait, on pose beaucoup de questions, on dit des choses qui, nous parlent énormément, mais c'est parce qu'on les lit d'un autre endroit et d'une autre histoire qu'on enrichit. Et je pense que ce qui fait, ou ces trois courants sont là, ils se disent, et on va peut-être arriver aussi à cette partie-là, de ce que peut la théorie décoloniale dire aux autres courants et autres régions, notamment l'Afrique ou l'Asie aussi, de ce que ça peut contribuer pour la réflexion de comment a été mené ce fait colonial, comment beaucoup de techniques, par exemple, de domination, et bon, elles ont été expérimentées depuis la fin du 15e et le 16e siècle. Christophe Colomb, c'était le premier colonisateur. Il avait déjà installé dans cette île qui est aujourd'hui Haïti, l'île d'Haïti, Quisqueya, comme les appelaient aussi les Taïnos, eh bien, il avait déjà installé un régime colonial où on exploitait tous les autochtones, asservis et esclavisés, et où toute révolte était réprimée par la violence, par couper déjà les mains, les oreilles enfin, à cette époque-là. Donc voilà des techniques de domination qui existaient, qui sont mises en place dès cette époque-là. Voilà, donc de voir comment ça évolue, quelles spécificités prend la race selon l'espace colonial. Bon, des choses comme ça peut-être peuvent être des questions qui intéresseraient aussi et qui intéressent d'ailleurs des penseurs d'autres espaces géographiques.
Alors, comme il y a beaucoup de choses et qu'on ne peut pas tout traiter, je pense que tu nous as déjà un peu expliqué des deux phases de la colonialité modernité. Donc ces théories, toutes ces pensées, elles ont quand même pour point commun de dire qu'on n'est pas sorti de la colonialité, qu'il y a une colonialité du pouvoir, du savoir, de l'être, du genre, de la nature. Et en même temps, elle propose aussi des pistes, des réflexions qui essayent d'ouvrir, de creuser des brèches. Et comme le cycle s'appelle « Penser l'économie depuis les Suds », j'aimerais qu'on aille un peu sur ce terrain-là et qu'on visite le courant, notamment de la dépendance. Si tu peux aborder le courant décolonial avec les théories qui se sont intéressé aux mécanismes de la production économique, donc le courant de la dépendance, les notions
de développement,
de sous-développement, de surdéveloppement, de post-développement, voilà, sur le développement.
Oui, alors, bon, déjà, on oublie que l'Amérique latine produit, en fait, de la théorie économique, et alors, en fait, ces théories-là sont celles de la seconde moitié du XXe siècle, où après un siècle d'indépendance, justement, on nous disait, vous êtes toujours dans le sous-développement, vous faites partie du tiers-monde, alors que ça faisait un siècle, plus d'un siècle, des indépendances, en responsabilisant justement cette idée que en fait il y avait pas, c'est votre responsabilité si vous êtes à ce niveau-là, il n'y a pas de décollage, il n'y a pas eu parce que en fait les indépendances se posent en Amérique latine dans l'idée que l'Amérique latine va rattraper, se sont séparées des puissances coloniales, mais ils vont rattraper en fait ces puissances coloniales puisqu'elles sont déjà elles suivent le modèle occidentales, et donc elles vont arriver au même niveau. Un siècle après, elles sont considérées ou situées dans l'espace du tiers-monde. Et donc il va y avoir toute une réflexion des économistes latino-américains sur pourquoi ce retard, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que le développement. Bon, il y a plusieurs tendances. Donc, déjà, la théorie de la dépendance, je pense que c'est très important dans cette seconde moitié du XIXe siècle, se dire, en fait, c'est parce que les règles du jeu, les dés sont pipés, quoi. Donc, on n'a pas... Enfin, la dépendance, nous, on est partis. Et c'est toute cette question de... On est devenu indépendant, mais endetté. En fait, on est sorti. Haïti, c'est l'exemple... on a des dettes. On a dû payer pour les indépendances et on est endetté. La dette coloniale, elle continue. C'est pour ça qu'il y a une continuité. Il n'y a pas une rupture. On est toujours dans cette question de la dette coloniale et parce qu'on est toujours dans les mêmes logiques de fonctionnement qu'à la période coloniale. C'est-à-dire, on est des pays qui sont exploités pour les ressources, pour les matières premières. On les appelle déjà au XXe siècle des matières premières.
En fait, donc pour payer les dettes, il était nécessaire d'exporter des matières premières, des ressources minérales, pour faire entrer des devises et notamment rembourser. Et Haïti, je n'ai plus le détail, mais...
Pour Haïti, oui, c'est que Haïti doit payer son indépendance. C'est-à-dire que pour obtenir la reconnaissance de l'indépendance, de la révolution, eh bien, il a fallu que, sinon, la France menaçait de envahir à nouveau l'île et de reconquérir. Donc, il fallait payer une dette exorbitante, je ne sais pas l'équivalent.
Pour indemniser les propriétaires.
Pour indemniser le pays colonisateur de cette indépendance. Mais ça, c'est encore là, c'est très, très évident, mais les autres pays se disent notre dette, elle n'est pas marquée noir sur blanc. On est, au moment des indépendances, en fait, on n'avait aucune autre possibilité. Il fallait continuer le même système, en fait, parce qu'il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas d'industrie, en fait, une industrialisation. Et donc, tous les pays de latino-américains sont restés dans les mêmes formes d'extraction, d'extractivisme des matières premières, pour pouvoir survivre et continuer à vivre sans possibilité d'industrialiser. Enfin, à l'époque, on pensait que l'industrialisation, par exemple, était une façon de développer. Donc, la théorie de la dépendance, ce qu'elle va dire, c'est qu'on arrive à un point, au milieu ou dans les années 80, où la dette est devenue supérieure. Enfin, les intérêts de la dette étaient devenus supérieurs à la dette elle-même. Donc, on était dans un système tellement vicieux que ce serait impossible pour ces États de jamais rembourser les États du Nord, mais qui sont les anciennes puissances coloniales, ou anciennes ou nouvelles, les États-Unis aussi inclus dans les nouvelles puissances coloniales. Donc, c'était impossible. Donc, la dépendance était de se dire, on va... Il n'y a pas de solution. Il faut arrêter ce système. Il faut qu'on et tout ce mouvement qui continue, ce que je veux dire, il faut supprimer toutes les intérêts de la dette et toutes les dettes. En fait, cette dette, on est encore tous les pays, tous les anciens, les pays colonisés ont des dettes vis-à-vis du Fonds monétaire international, comme vous voyez l'appeler, alors que on devrait avoir honnêtement des réparations. Parce que on est dans des logiques complètement perverses. Et donc, dans les années 80, certains pays, l'Argentine, le Mexique, on se dit, on arrête de payer les intérêts de la dette. Bon, immédiatement, il y a une réaction, les réactions, bien sûr, de répression. Et on a dû revenir, et on est toujours dans des systèmes où la dette est payée. Donc ça, c'est la question de penser la dépendance. C'est-à-dire, en fait, le sous-développement, c'est un piège. En fait, on est dans un piège. On ne peut pas s'en sortir. Et donc, du coup, de penser le développement. Je pense que là, c'est des questions aujourd'hui très, très importantes et dont ce cycle aussi pourrait beaucoup intéresser. C'est-à-dire que aussi, aujourd'hui, tout est développement. Enfin, depuis la fin du XXe siècle, on doit se développer. Mais qu'est-ce que c'est que le développement ? Le développement, c'est toujours rattraper ou venir au niveau de l'Occident, ce qui est impossible à réaliser pour nous parce que il y a un système fait construit pour que ça ne se produise jamais, pour qu'il y ait une différenciation entre le nord global et le sud global, et que en fait ce qu'on nous demande aujourd'hui pour nous le développement, ça veut juste dire la colonialité de tout, la colonialité du pouvoir, la colonialité de la nature. En d'autres termes, quand on dit il faut que c'est très bien que des entreprises internationales et transnationales s'installent dans les Andes, parce que comme ça on va extraire des tonnes d'or qui vont enrichir les populations locales, mais ça c'est au prix de polluer complètement les sols avec le mercure, de tuer toute la végétation, de contaminer toutes les fleuves et lacs qui sont dans cet espace, et donc tuer de nouveau, Voilà, moi, je ne peux pas m'empêcher, en tant que décoloniale, de dire que ça, c'est un génocide à la fois des populations, de l'espace, enfin, de animal et végétal de ces territoires, parce que quand on voit, enfin, l'installation des projets, des méga projets, c'est pour ça que tous les peuples autochtones des Amériques se mobilisent aujourd'hui, des Amériques, y compris des États-Unis, bien sûr, en Guyane, la Montagne d'Or, enfin, c'est ça. On nous dit le développement, c'est que arrive cette entreprise. Et les peuples voient, on est dans des logiques coloniales. Donc, ce qu'on nous vend comme le développement, bah, c'est juste c'est le nouveau nom de la colonialité. Donc, voilà. Donc, penser depuis le Sud la question de la dépendance, la question du développement. Bon, il y a eu différentes phases. Donc, on est. Qu'est-ce que c'est que le sous-développement? Est-ce qu'on ne doit pas. Et je pense qu'un autre, en tout cas, un aspect qui serait intéressant, c'est ce moment, ces années 80, où on se dit, en fait, encore une fois, on est dans des territoires différents, que ce soit dans les Amériques, en Afrique ou en Asie, sur les mêmes problèmes. Et que l'alliance, et donc là, encore une fois, le tiers-monde, lorsqu'il est créé, la notion de tiers-monde, lorsqu'elle est créée, c'est une alliance aussi politique. Donc en fait et qu'on a dissous parce que en rendant très péjoratif le terme, bon, les tiers-mondistes, les sous-développés, etc. Eh bien, on a un peu déconstruit ces alliances, mais aujourd'hui encore de se poser la question. Enfin, je pense qu'on est encore dans ces logiques de penser le développement pour nous depuis les Suds, justement, se dire que bah c'est un leurre en fait ce qu'on nous vend comme et ça la théorie ou les théoriciens, des théoriciens d'Abiyal participent à ce débat, hein, de se dire. Il y a des alliances encore à réaliser autour de ces questions de développement et de refuser ce qu'on nous impose comme le développement qui n'est en réalité, encore une fois, la modernité qui se présente comme face brillante de la colonialité.
Oui, et vous terminez l'ouvrage avec, sur les travaux de Arturo Escobar, un chercheur colombien qui développe ses idées de post-développement et des approches complètement différentes et qui revalorise les savoirs vernaculaires, les pratiques sociales, les modes d'organisation des sociétés qui n'ont pas été totalement dissoutes et détruites. Et notamment beaucoup ce qu'il appelle le design communautaire. Enfin, il y a si tu veux développer sur ça, et sinon, parce qu'en fait, le temps passe très vite. Tu veux aller sur ça?
Oui, comme alternative, hein, parce que Arturo Escobar, bon, autour de, peut-être vous avez en français l'ouvrage Senti penser la terre, de se dire qu'en réalité, les peuples autochtones, c'est des logiques complètement différentes, et c'est ça la résistance aujourd'hui, je crois, la plus forte à la colonialité, ce sont les peuples non occidentaux qui ne divisent pas déjà, ne sont pas du tout binaires. Hein. Les sociétés coloniales sont très binaires, ils voient tout en deux et en opposition. Et pour les peuples autochtones, il n'y a pas de division déjà, ni de classification entre les humains, l'homme. Hein, la nature, les espaces, les genres, etc. Et donc, c'est d'autres logiques. Hein, et où, par exemple, la raison et le sens, en fait, l'essence, quand il dit senti-penser, par exemple, la Terre, c'est aussi une critique de cette idée que nous avons occidentale, que tout ce qui est raison est supérieur aux émotions, que l'espace, il est juste à rationaliser, mais en fait, la rationalité n'est qu'une forme de colonialité, et que les peuples autochtones nous donnent, par exemple, dans la question de la terre et de la propriété. La propriété, par exemple, et pourtant, les peuples autochtones sont aujourd'hui dans cette impasse de devoir eux-mêmes se reconnaître ou demander la propriété, alors que c'est exactement ce qui divise et qui est contraire au mode de fonctionnement non occidentaux. Les peuples autochtones se considèrent, eux, appartenir à la terre, mais la terre dans un sens très, très abstrait, très... très c'est un tout, Et pas l'inverse. Donc, il n'y a pas des notions de propriété de la terre par ces peuples-là, mais au contraire de dépendance et d'auto-dépendance et de circulation. Donc, une pensée beaucoup plus circulaire, enfin, toujours circulaire d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'économie aussi, elle s'inclut et elle s'intègre. Et d'ailleurs, économie qui n'est pas séparée de la spiritualité, qui n'est pas séparée des modes de consommation, de la naissance. Hein. J'ai pensé aussi, question, on va peut-être parler, mais de la naissance comme espace de, justement, de circulaire, de reproduction de la vie. Et bon, ça, c'est des apports. Bon, pardon, je suis en train de les résumer très rapidement parce que le temps passe, mais c'est très important dans la théorie décoloniale, en fait, de sortir juste de la question de voir la colonialité sous différentes formes, et notamment cette colonialité de la nature, la colonialité même de se penser, de sortir et de déconstruire ces formes de division de l'espace ou du champ de l'humain et du non-humain, et de non-humain même pas seulement animal ni végétal, mais minéral, parce qu'en fait, on est tellement colonisé de tout qu'on hiérarchise et qu'on apprend, parce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants, c'est à détruire tout ce qui est, enfin, je ne sais pas, à marcher sur la fourmi. Enfin, voilà, donc on a des logiques qui sont construites et dans les imaginaires dès la plus jeune enfance et qui ne sont pas du tout celles des peuples non occidentaux. Mais je pense que ça aussi, c'est la particularité de la théorie décoloniale. Si elle propose autant de choses qui paraissent aussi radicales, c'est parce qu'on fonctionne dans des espaces où les peuples non occidentaux, donc qui ont des logiques de pensée complètement autres, hein, et que dans la théorie décoloniale, on appelle ça le pluriversel, c'est-à-dire qu'on a une pluralité de conceptions de la vie et de l'être au monde, eh bien, c'est ça qui est enrichi et qui permet de voir cette potentialité de résistance, je dirais.
Alors, moi, j'ai noté là, une des dernières phrases du livre qui est justement sur cette notion de lien de monde relationnel. Je disais circulation, mais monde relationnel, et peut-être d'autres autrices écoféministes aujourd'hui diraient génératif, enfin, tu vois, de ce modèle-là. Alors, je vous cite, « Les perspectives des mondes relationnels qui persistent dans les Suds à entraver la marche triomphale des vainqueurs permettent de ne pas tomber dans le pessimisme paralysant des récits de l'effondrement. » L'attention portée à ces luttes décoloniales en Amérique latine à Biayala nous invite à concevoir des manières inédites de nous déprendre de nous-mêmes et de forcer le passage vers d'autres mondes. Je crois même que c'est les derniers mots du livre. Alors, j'ai envie de poser d'autres questions, mais j'en ai un peu pris par le temps. Ouais, je pense qu'on va peut-être ouvrir directement les questions à la salle. Sachant que ce qui manquait, peut-être que ça peut être l'occasion d'en parler, c'était de te questionner sur ton travail sur l'histoire de la maternité, et qui est ton premier travail abordé dans une perspective décoloniale, l'histoire de la maternité au Pérou. Est-ce que ça t'a permis de voir, de mobiliser ce corpus-là ? Et l'autre question que j'ai pas vraiment eu le temps de poser, mais peut-être que je la poserai à la toute fin, c'est plutôt sur... toi qui es péruvienne mais qui vis à Paris, donc dans l'espace colonial, post-colonial et colonial français, francophone, comment est-ce que, à ton sens, les théories produites en Amérique latine proposent des outils aussi qui peuvent servir aux autres peuples qui ont été colonisés, et notamment plutôt continent africain, je pense, l'espace colonial français. Je vais... faire circuler deux micros.
Bonsoir. Je ne sais pas s'il y avait une question, mais je voulais déjà vous remercier pour cet espace et ce partage, et que j'avais trouvé très important aussi de resituer les enjeux de colonialité du savoir. Ça m'a fait penser à Spivak, que je n'ai pas lu en entier, qui parle de « Est-ce que les subalternes peuvent-elles parler ?» et que c'est important, effectivement, que même en tant que personne minorisée, racialisée négativement, contrairement aux Blancs qui sont racialisés positivement, parce qu'ils font aussi partie de ce système, qu'on se rappelle que même nous, on a une responsabilité et on a une réflexion éthique à avoir sur la question de d'où on parle, même en venant de classe populaire, même étudiant d'immigration postcoloniale. Je trouvais ça très important. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de ça.
Merci.
Moi, j'ai une question ici. Bonsoir. Dans l'épisode avec Silvia Federici, je ne sais pas si je dis son nom correctement, vous avez parlé de la dette comme système de maintien de la dépendance dans un rapport de domination et de l'ouverture du pays. Donc, dans ce cas-là, c'était le Nigeria, à toute forme de business internationaux. Est-ce qu'on parle des mêmes agents ? J'ai l'impression que pour l'Afrique, on parle plutôt d'agents de domination européens et que pour l'Amérique latine, on parle d'agents américains, mais, enfin, des États-Unis. Est-ce qu'il y a des différences dans ces agents-là, ou est-ce qu'on est plutôt dans une économie globalisée où c'est les mêmes agents qui dominent économiquement aujourd'hui les deux continents ? Est-ce qu'il y a des grandes différences ou pas ?
Merci. Peut-être on va prendre plusieurs questions, mais je répondrai à celle-ci. Ou toi.
Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposition. Et j'ai commencé à lire votre livre et je crois que c'était vraiment important et c'est un livre essentiel. Justement, vous avez dit à juste raison que ce sont dans le monde ibérique, donc l'Espagne et le Portugal, qui a commencé déjà à théoriser la colonialité avant que les Français et les Anglais s'y mettent. Et c'est vrai, c'est d'autant plus vrai, je crois qu'il faut rappeler que la plantation et le laboratoire du capitalisme, c'est là où vraiment tout le capitalisme c'est la théorie capitaliste s'est vraiment créée. Et cette notion de plantation, ce sont les Portugais qui l'ont fait à Saint-Thomé le Principe, qui l'ont amélioré au Cap-Vert et qu'après ils l'ont amené au Brésil. Et c'est à partir du Brésil que les Anglais et les Français s'en ont saisi et l'ont encore mieux perfectionné à la Barbade, par exemple. Donc on voit bien le lien qu'il y a. Et c'est pour ça que la colonialité, enfin le travail qui est fait en Amérique du Sud, bon, Amérique latine est peut-être en problématique, et j'aimerais bien que d'ailleurs vous nous disiez qu'est-ce que vous appelez ce monde-là, parce que l'Amérique latine est un concept colonial. Justement, le lien, et c'est en ça que le travail que les chercheurs, les penseurs latino-américains ont fait est vraiment au cœur de la problématique sur l'esclavage et peut être très utile pour l'Afrique et même au-delà pour l'Asie. Donc c'était juste pour rappeler ce lien et je crois que c'est important le travail qu'ils ont fait et qu'il peut être très utile.
Bonsoir. En fait, là, c'est vraiment... je ne sais pas si je peux continuer. Ouais. En fait, là, c'est un petit peu pour mes intérêts personnels, mais est-ce qu'on peut revenir sur post-développement ? Et est-ce qu'il y a des auteurs qui parlent de ça ? Parce qu'en fait, moi, je suis prof et je fais un cours sur les inégalités de développement. Et donc, du coup, j'ai parlé de ce qu'on dit de manière classique au niveau du développement. J'ai parlé aussi de ceux qui ont critiqué ceux du développement, notamment dans un épisode d'Afrotropique, il y avait plusieurs auteurs, Samir Amin, etc. Mais je voulais aussi critiquer la notion aussi de développement. Du coup, est-ce que c'est ça le post-développement ? Et est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, quelques clés, peut-être des auteurs, je ne sais pas. Voilà.
Déjà, un grand merci pour... Merci. Un grand merci pour cette présentation, c'était assez passionnant. On se rend compte, enfin pour ma part, je me rends compte que je pense connaître pas mal de choses sur l'Amérique latine, dites. Donc moi j'attends aussi de savoir comment l'appeler autrement.
Mais on l'a dit, c'est Abya Yala. Ah,
c'est passé très vite. Abya Yala. Du coup, vous avez rappelé à plusieurs moments que les formes de colonialité se bouger, se transformer également. Du coup, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur la Chine aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce développement-là, qui est peut-être un peu moins extractiviste dans sa vision, mais qui n'en est pas moins colonial. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous avez à en dire. Merci.
Tu veux continuer à prendre des questions ?
Tu
tu veux encore. Une dernière. Alors, ou une ou deux dernières. Une dernière.
Allô ? Pardon. Donc, merci Lycelle et Afrotopics. En tant que Pérouvienne moi-même, je suis très, très fière de t'avoir écouté aujourd'hui ici et de que cela soit en lien avec Afrotopics. Moi aussi, en tant que militante, je mets beaucoup d'efforts de, à chaque fois faire les liens que l'histoire de l'Afrique ne peut pas être conçue sans l'histoire du continent américain. Non, c'est notre histoire aussi, donc on est ensemble aussi. Et il faut travailler sur cela. Donc, pour nous, pour moi, c'est révolutionnaire qu'une femme péruvienne elle a fait un livre sur les théories décoloniales de l'Amérique latine. Non, c'est incroyable. Et donc, ma question, c'est, toi, en tant qu'académicienne aussi, ou académicienne, comment tu fais aussi dans le côté... si l'académie occidentale, la rationalité occidentale, c'est l'un des principaux outils de la colonisation, toi, en tant qu'académicienne, comment tu fais pour restructurer tout ça en toi et dans ton travail? Merci.
Bonsoir.
C'est toi qui vas répondre, hein, donc c'est toi qui... allez-y.
Oui.
Allez.
Alors, merci déjà pour toutes ces informations. C'était extrêmement intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai une question qui est peut-être un petit peu pragmatique, mais au vu de tout ce que vous présentez et de l'empreinte du coup du colonialisme qui est toujours extrêmement présente et qui est un continuum, en fait, on dirait qu'il ne cesse absolument jamais, quelles pourraient être un peu les solutions? J'ai compris qu'il y en avait, mais je me dis que dans un monde qui est aussi mondialisé, justement, et empreint d'échange et de domination internationale, est-ce que, quelles sont les solutions, selon votre regard, par rapport à tout ça?
Bonsoir. Je vais simplement vous remercier et vous féliciter également pour le travail abattu, que ce soit du côté d'Afrotopics ou de votre côté à vous, Lycelle. Ma question était exactement la même d'un point de vue pragmatique et spécifiquement de l'économie. Est-ce que vous aviez des éclairages à partager et des initiatives structurées ou non, quelle que soit l'ampleur, localisées bien sûr. Oh, j'ai oublié comment il faut appeler. Et qu'est-ce qui est possible au niveau international? La question me vient aussi parce que j'ai eu, d'un point de vue professionnel, à travailler sur le commerce équitable et on m'avait expliqué la source historique. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Est-ce que de ce type d'alliance est intéressante ou non? Parce que moi, j'ai été très critique quand j'étais dans cette organisation. Je trouve qu'elle reste quand même très empreinte des rapports de pouvoir qu'on veut combattre, basiquement. Et ma question aussi, à la base, elle venait du fait que quand le Niger a commencé à chasser les troupes françaises, un ami nigérien m'a dit que la solution serait peut-être d'arrêter avec l'uranium, de sortir de l'extractiviste. Et c'était assez intéressant que vous parliez également de ça. Donc, bon, la question n'est pas très structurée, mais peut-être que vous allez pouvoir vous en sortir, je ne sais pas. Bon courage.
Merci beaucoup à toutes et tous pour ces questions. Alors, je commence dans l'ordre pour le Portugal. Je reviens sur cette question, effectivement, de comment ces sociétés, enfin, au XVIe siècle, on va mettre en place des formes de domination, cette plantation, la fazenda, qui va se diffusée partout et on voit, bon, on a surtout les références des États-Unis parce qu'elles ont été beaucoup plus transmises, y compris par le cinéma, de ce que c'est qu'une plantation, mais ça, ce sont des formes effectivement mises en place par le Portugal. On oublie aussi le Portugal et la force du Portugal en termes de puissance coloniale au XVIe siècle, hein, tous les comptoirs. Et la traite. En fait, par cette division, vous savez, à la fin du XVe siècle, il y a une division du monde en deux, tout l'espace, enfin, à partir d'une ligne
d'un planisphère qu'on devrait complètement déconstruire, qui est très colonial aussi, enfin, notre planisphère, donc au milieu de l'Atlantique, cette ligne où toutes les terres conquises en l'Orient étaient portugaises et celles de l'Occident étaient espagnoles ou devenaient espagnoles, eh bien, les Portugais ont hérité de ce fait-là, de ces côtes ou de l'Afrique, et donc installer ces comptoirs. Et s'il y a eu, et on oublie enfin dans l'histoire de la traite transatlantique, le poids de Portugal. Le Portugal, c'est pas un hasard que 50% de la population du Brésil, qui était l'espace colonial en Amérique du Portugal, soit constitué à 50% de la population, soit afro-brésilienne. Et que la majorité, on oublie aussi, la majorité des personnes déportées, esclavisées de l'Afrique, sont arrivées au Brésil par cette puissance. En fait, le Portugal était au cœur de ce système économique. À ce moment-là, c'est lui qui l'a développé. Et c'est un peu une histoire qui a été, au fil du temps, effacer et travailler pour oublier un peu cette présence. Donc effectivement, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Je crois, alors non pas parce que je pense historiquement. Je crois qu'au Portugal, on fait aussi les collectifs militants sont en train de justement visibiliser cette histoire parce que justement, elle a été effacée, invisibilisée. Donc c'est important de le dire. Ensuite, le terme d'Amérique latine, oui, il est très problématique déjà d'emblée. Alors vous me direz pourquoi il est sur le titre. Alors s'il est tellement problématique, pourquoi nous on voulait que ça soit qu'on ait une théorie, l'introduction théorique critique d'Abby Ayala, mais la découverte nous a dit non, c'est quoi ce nom-là. Non, pas comme ça, mais non, il faut garder quand même Amérique latine. Mais alors, en 1992, donc, pourquoi ce terme il est problématique ? D'une part, parce que Amérique, bon, vous le savez très bien, c'est un terme qui a été donné au continent en honneur d'un colonisateur qui est arrivé avec Christophe Colomb et qui a dit à Colomb qui était complètement perdu. Finalement, non, c'est pas l'Asie, c'est pas les Indes, c'est un autre continent. Et donc, c'est lui qui a eu la gloire de donner, à l'Amérique le nom de ce colonisateur, Américo Vespucci. Mais par ailleurs, le problème, c'est que ensuite, par l'histoire, Amérique est devenue le territoire impérial des États-Unis, qui se disent États-Unis d'Amérique, et qui sont par ailleurs appropriés aussi le terme, ce qui fait que on peut pas dire nous on est américaine parce que d'emblée, mais d'où, de quel état, de quelle ville, des États-Unis, et donc Amérique latine veut rien dire, rien à voir avec la latinité, puisque alors la Jamaïque, Haïti, qu'est-ce qu'on fait de la Guyane, du Suriname, bref, non, c'est juste l'Amérique qui n'est pas les États-Unis, en fait, c'est ça latine en réalité, l'Amérique qui sont pas les États-Unis. Et dans latine, déjà ça efface non seulement les pays qui n'ont pas un lien avec cette soi-disant latinité, qui ne veut rien dire non plus, mais surtout tous les peuples autochtones, les millions de personnes qui ne sont pas du tout hispanophones, lusophones, francophones, même qui ne parlent même pas une forme de créole, de mélange. Non, mais toutes celles qui gardent leur langue, ce sont des millions de personnes. Donc c'est problématique pour toutes ces raisons. Donc de mon point de vue, alors en 1992, il y a une proposition de remplacer Amérique latine ou l'Amérique, le continent, de se dire quand même 100 millions de personnes, donner un nom à ce continent. Il ne fallait pas attendre qu'arrive un Européen qui dise ici c'est l'Amérique. Donc il y avait des noms. Sauf qu'on les a perdus parce que ça fait tellement longtemps, et c'est ça que je dirais plutôt en lien avec l'Afrique, c'est que notre colonisation, elle est tellement ancienne qu'il y a tellement de choses d'anéantissement que ça s'est produit en fait, que ça nous a touchés vraiment au point d'être... on voit la résistance, elle est très 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 difficile. Dans Amérique latine, en 1992, la proposition était de prendre un de ces noms. On en a perdu beaucoup parce que toutes ces langues ont perdu ces noms anciens. Et Abiyala est un de ces noms que donne un peuple qui est le peuple Guna qui vit aujourd'hui entre le Panama et la Colombie. Grand autre, si me permet d'emblée de parler d'un très grand problème colonial, ce sont les États-nations, et ça nous concerne tous, l'Amérique latine et l'Afrique. Parce que quand je dis Guna, je devrais dire juste Guna, mais je dois dire un peuple qui est au Panama et en Colombie, est divisé par une frontière qui est une frontière complètement coloniale et arbitraire, comme ça arrive dans tellement de peuples de tous les Suds, et pas seulement, parce que vous me direz en Europe aussi, en Europe également. Donc le problème de l'État-nation qu'il faut poser en termes aussi non seulement politiques, économiques, parce que c'est une véritable politique de colonial. Alors, quant au post-développement, je vous renverrai malheureusement, enfin, au livre. Cette partie, elle est plus la spécialité de Philippe, donc je ne voudrais pas, enfin, je n'ai pas tellement de noms comme ça à vous donner, mais en revanche, vous pouvez trouver les références davantage sur le livre. Alors, sur les formes contemporaine de la colonialité, comment ça va évoluer. Et je merci beaucoup parce que justement, alors quand je parle de formes nouvelles et de sociétés coloniales, je pensais effectivement à la Chine. Enfin, la Chine, si, moi je l'inclus comme une puissance coloniale aujourd'hui. Si on pense par exemple que toutes les formes de colonisation, enfin, qu'on dirait internes, mais que pour moi sont des formes de colonialité, des peuples quand même soumis. À un peuple qui se considère supérieur, dominant. Je pense qu'il faut penser cette question de la race, par exemple. On se dit, alors parce que nous, on est colonisés, on ne voit pas les différences, mais il y a des questions raciales en Chine, par exemple, avec un peuple Han qui se considère supérieur, qui a des définitions raciales à ceux de l'Ouest. Et ces formes de colonialité, pour moi, en Chine, en fait, se jouent des questions de coloniales. Pour moi, je l'inclurais.
Il y a de l'extractivisme, notamment en Afrique, de par la Chine, en fait.
Oui, et ensuite, c'est des mouvements, justement, qui sont expérimentés sur un territoire considéré comme national, mais qui est complètement arbitré, qui est un empire, en fait. À cette échelle-là, à cette échelle, dans une région où il y a autant de peuples. À partir du moment où il y a des peuples qui ne sont pas reconnus comme tels, les Ouïghours, par exemple, là, sont anéantis, qui subissent des politiques quand même génocidaires. Donc on est dans un système qui est colonial, ou de la colonialité. Pour moi, je le lis comme ça, forme de colonialité. À partir de là, ces espaces ont tendance, ou ces logiques sont des logiques globales, vont déborder ce cadre pour aller vers d'autres. Et aujourd'hui, on est dans ces formes-là, effectivement, qui en sont celles. Alors, modernes dans le sens où on ne les a pas vues de cette manière-là, mais quand on regarde... C'est pour ça que, quand je vous disais, j'aime bien la notion de colonialité, parce que si on observe, par exemple, les logiques de comment on réduit ou on nie l'existence d'un peuple dans son humanité, dans ses coutumes, dans sa manière d'être, et on veut... non seulement l'acculturer, mais même le faire, d'une certaine manière, le dominer à tel point de le faire disparaître. Bon, ce sont des logiques, pour moi, c'est colonial. Enfin, je vois 16e siècle, je vois la continuité, vous voyez. La Russie, absolument, on est d'accord. Enfin, l'Union soviétique, la Russie, on a aussi, à cette échelle, en fait, sur des espaces aussi grands, avec autant de peuples, et qu'il y a un peuple qui domine le reste, on est dans une logique. Et c'est pour ça que le concept de colonialité est intéressant, parce qu'après, sinon, on va me dire, mais non, ça, c'est pas du colonialisme, c'est pas la colonisation. Ce sont pas Et eux-mêmes vont travailler sur ça. Nous, on n'est pas des coloniaux, on n'a pas été des puissances coloniales, on n'est pas été dans d'autres... Mais en fait, il y a d'autres formes de colonialité. La notion de colonialité, c'est pour ça qu'elle me paraît intéressante. Pour répondre à cette question. Alors, comment je fais, Milena, à l'université ? Qu'est-ce que c'est ? L'université, c'est un espace de colonialité du savoir. Mais de colonialité du savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça, c'est la grande question et je pense que des courants de pensée critiques. Bon. En tout cas, en théorie décoloniale, la praxis est essentielle. C'est-à-dire... À partir du moment où on comprend comment sont ces logiques, si juste on laisse, on se dit, oui, mais bon, je suis pour rien, on laisse, c'est qu'on participe. au maintien, à partir du moment où on participe au maintien du statu quo, c'est qu'on est militant pour cette colonialité, pour que la colonialité persiste. Alors, comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est toute la question, en fait, de la théorie décoloniale, tout en sachant que c'est pas une personne, c'est, en fait, c'est logique, elle nous affecte collectivement, et donc il faut les penser collectivement. Et je dis pas ça pour me dédouaner, mais à titre personnel, je le pense tout le temps, enfin, sur les dispositifs, sur les dispositions, par exemple, des salles de cours. Enfin, c'est colonial, par exemple, dans le sens où une université, elle est organisée toujours, enfin, de la même manière. Vous savez, des amphis, mais on est dans des dispositifs complètement coloniaux. Enfin, bon, là, peut-être un peu inversé. Souvent, c'est l'inverse. On est dans les anciens amphithéâtres, c'est plutôt le professeur qui est en situation de chair, justement, supérieure, et puis ceux qui écoutent, le dispositif, la manière de parler, la manière de prendre les notes, d'obliger, enfin, de prendre ou d'évaluer tout ça. Donc, c'est des questions qui, à titre personnel, enfin, bon, on va se les poser. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, c'est... Oui, c'est important, enfin, c'est nécessaire, je dirais, enfin, à partir du moment où on comprend ce que c'est que la colonialité du savoir et comment c'est organisé, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'arrive, ou c'est ma préoccupation. Mais c'est à plus grande échelle. Et en perspective décoloniale, en fait, le problème, c'est pas de changer le dispositif même de la salle ou de comment... C'est que c'est l'université qui est problème, c'est l'université qui est coloniale. En fait, il faudrait défaire. Alors, et comment ? Et ça nous arrive à toutes les questions de quelle solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Alors, certes, il y a différents niveaux. À l'échelle là immédiate, c'est il faut que je pense à partir du moment où je sais comment fonctionne, par exemple, la race dans un espace. Universitaire, il faut que je tienne compte de ça au moment où j'explique, où je transmets, où j'évalue, où je fais. Bon. Après, est-ce qu'on va décoloniser l'université ? Honnêtement, non, je dirais, malheureusement. Mais comment on peut faire des solutions ? C'est créer des formes de circulation ou de reconnaissance de savoir alternatives. Et de se dire que même cette université, est-ce qu'elle est importante ? Est-ce que les savoirs se transmettent vraiment dans l'université ? Ben, c'est ce que je dis souvent, ce qu'on dit souvent aux enfants. En fait, tout ce qu'on apprend vraiment d'utile, c'est pas l'école, c'est pas à l'université. L'école, elle est faite pour déconstruire les savoirs, pas pour les construire. En fait, pour déconstruire des savoirs de résistance, de généalogie, de séparer, ça, ce n'est pas une référence qu'il faut utiliser, parce que ce n'est pas la bonne référence. Et puis, on n'a pas les bonnes références quand on n'est pas dans l'espace de la domination. Donc, on nous rappelle qu'on n'est pas dans la connaissance, dans le savoir. Donc, en fait, voilà, c'est ça le problème. Donc, il faut être dans la résistance. Pour moi, il y a deux espaces de solutions. Le premier, c'est tous les peuples non occidentaux, et c'est pas par une question de simple, enfin, je sais pas, de se dire oh, c'est bien de se dire oh, on est pour les autres. Non, c'est parce que c'est là où se joue tout aujourd'hui, parce qu'on est arrivé à un moment de la colonialité où c'est à l'échelle globale. Voilà, partout la colonialité, on pense à la Chine, la Russie, enfin, partout ces empires, enfin, c'est une machine et c'est un rouleau compresseur. Et qui sont ceux qui payent ? Ceux sur lesquels ça va tomber ? C'est surtout les peuples non occidentaux. Et qui résistent aujourd'hui, qui résistent toujours, mais qui sont acculés, de plus en plus acculés. Donc je dirais notre première responsabilité depuis ces espaces conscientisés, c'est là, c'est partout, dans tous les continents, il y a ces peuples qui résistent à cette colonialité, et effectivement dans les entreprises extractivistes, principalement contre ces entreprises extractivistes, parce que l'extractivisme n'est pas seulement une question économique, c'est une question culturelle, et c'est même une question de survie tout court. Donc là, dans le maintien, pour nous, alors ce serait un petit peu la transmodernité, pour nous, héritiers, descendants de garder ces espaces justement qu'on veut anéantir de nos savoirs transmis, de nos savoirs, quand on nous dit non, mais bon, en fait, nous, Bah, si on sait, dans nos corps, on sait, dans nos, je sais pas, dans nos esprits, dans nos ancêtres, j'en sais rien comment les appeler. C'est juste pas les laisser partir, pas laisser. Et c'est peut-être le lien, encore une fois, ce qu'on disait avec l'Afrique, que je vois plus. Parce que, par exemple, dans mon histoire personnelle, ça fait 3 ou 4 générations, je ne sais pas combien, où les langues autochtones, on n'en a plus. Moi, je suis née que, comme dit... je paraphrase, hein, c'est ce titre de Cautararchi, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. Et je ne parle que dans cette langue, enfin l'espagnol, et qui n'est pas ma langue. Donc, bon, dans tous les espaces, on a encore cette possibilité, cette force, cette puissance. Et donc, je pense, c'est pour ça que je disais à l'Afrique, où la langue, pour moi, c'est par exemple un enjeu central. En une génération, on a anti une langue non occidentale. Quand on parle plus aux enfants, on va la perdre. Et une fois qu'elle est perdue, alors on peut après faire des efforts d'apprentissage. C'est pas du tout la même chose, parce que une langue, c'est une cosmovision, c'est une façon d'être au monde. Ça va de pair avec tout le reste, l'alimentation, enfin la cuisine, la danse, parce qu'on danse, parce qu'on chante, parce qu'on prie. Enfin, on prie, je veux dire, la spiritualité en général. Donc c'est tout ça, et c'est en ça, je dis à l'Afrique qui parce que l'Afrique, la colonisation, elle est moins... Enfin, nous, on a les 5 siècles de colonialité qui ont vraiment ravagé. Bon, il y a encore des espaces de résistance. On est encore... Et puis, on est là, bon, de dire, on est encore là. Mais voilà, en Afrique, moi, je sens qu'il y a encore voilà, cette force. C'est encore... Il y a plus. Enfin, je ne sais pas. Je me dirais ça comme lien. Et prenez exemple, enfin, regardez ce qui nous est arrivé à nous en Amérique latine, à Biayala, et prenez exemple de ça pour la résistance, en fait, que ça serve pour la résistance, en fait, que ce qu'on a vécu, bon, on est encore là pour le transmettre et pour que ça n'arrive pas ailleurs, pour qu'on ne... parce que toutes ces... ça c'est un rouleau compresseur. Les entreprises extractivistes chez nous, elles arrivent aussi, elles sont là. Il faut bloquer, effectivement. Donc, quand on dit, quand vous, pour répondre à votre question, voilà un enjeu central. Il faut arrêter l'extractivisme. Enfin, c'est l'extractivisme sous couvert de développement. C'est ça, parce qu'on nous dit c'est ça ou vous n'avez rien, vous allez mourir et périr. Ben, c'est un discours recentré. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça vraiment, ou c'est pas le leurre de la modernité pour essayer nous convaincre? En tout cas, moi, je pense qu'il faut bloquer. Et puis, toutes ces formes alternatives qui sont très du maquillage, du type ONG, commerce équitable, bah, je dirais, c'est parfois et souvent, pour moi, des formes de modernité qui cachent la colonialité derrière. Enfin, pour les ONG, ça fait longtemps qu'on sait que c'est des projets sous couvert de partage de technologie. Mais pourquoi on a besoin d'une technologie? Quelle technologie occidentale, toujours supérieure, colonialité du savoir. Nous, on sait, le Nord sait, le Sud ne sait rien. Il faut apprendre à faire des puits, à capter de la lumière. Pour quoi faire? Est-ce que c'est les peuples concernés ont-ils demandé cela? Ont-ils choisi? Enfin, voilà. Donc, bon... J'aurais tendance quand même à ces questions de l'équitable. Équitable pour qui? Est-ce que ce n'est pas aussi de la bonne conscience? Alors, qu'est-ce que c'est de l'équitable? Juste sortons, laissons ces peuples se régir comme ils le souhaitent. Enfin, c'est ça en réalité. Alors, mais c'est tellement difficile parce que c'est tellement difficile, mais c'est juste ces peuples devraient se régir et, comme ils le souhaitent, sans qu'on leur impose nos formes de domination coloniale. Mais bon, voilà. Je ne sais pas, je n'ai pas tellement, malheureusement, de solutions concrètes qu'il faut, à mon avis, dans des espaces comme ça, penser. Notamment entre ici, de descendants de colonisés. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a encore et qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte? En tant que mère, je me dis la transmission. La transmission, forcément. Sinon, on arrête là. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut à eux, aux enfants. Et même les enfants, par exemple, dans ces logiques de lutte contre la pauvreté, etc., de nous dire non, non, non. Et à l'Afrique, non, de dire non, vous avez trop d'enfants, il y a trop d'enfants. Mais alors, pourquoi vous vous décidez ? Enfin, je veux dire, des logiques qui, en tant que féministe, on va dire, ouais, oui, voilà, parce que nous, maintenant, en Amérique latine, on nous dit, oui, la lutte est faux aujourd'hui, et demain, c'est le 8 mars, et la lutte, enfin, l'avortement, je ne suis pas contre du tout, mais est-ce que c'est seulement cet agenda-là ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne... Pour les peuples concernés, est-ce que c'est ça le problème, le droit? Et je voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je ne suis pas contre la réactionnaire. Non, c'est je parle depuis. Enfin, j'essaie de me mettre aussi du côté des peuples autochtones. Est-ce que c'est leur problème l'accès aujourd'hui à l'interruption volontaire de grossesse sans que ça soit un... surtout. Complètement. Complètement. C'est moi, en spécialiste, en tout cas, ayant beaucoup parlé de l'accouchement, que c'est un problème. Enfin, en tant que péruvienne, où entre 1996 et 2000, plus de 300 000 personnes autochtones ont été stérilisées sans leur consentement, ligature de trompe. Et que donc leur problème n'est pas l'IVG. Mais. Pourquoi ? Enfin, le dédommagement, le fait de leur avoir enlevé le sens de la vie, enfin, simplement pour elles. Donc c'est ça aussi, la lutte de ces femmes. Enfin...
Bon, je pense qu'on n'aura pas du tout le temps de faire le tour de toutes les questions, ni d'en reprendre d'autres. Mais merci infiniment, Lycelle, pour ce partage. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Merci à Louis en régie pour la technique. C'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans un mois, le 4 avril, pour la prochaine séance. Oui, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à la question qui m'était posée sur les autres épisodes. Mais justement, alors, c'est pas du tout structuré. Je vais y répondre. Dans le même temps que je fais la clôture. Mais oui, pour revenir sur l'épisode avec Silvia Federici, il est très bien. Il est surtout important parce que donc Silvia Federici, qui est italienne, américaine, qui a commencé sa carrière de chercheuse au Nigeria, nous raconte comment est-ce que la découverte du contexte du Nigeria a structuré et fertilisé toute son imagination politique. Mais elle a travaillé surtout sur l'Europe et la privatisation des communs, le moment des enclosures et le passage d'une société féodale à une société capitaliste. Mais quand on l'écoute, en fait, on comprend que c'est en assistant à ce moment de libéralisation des économies, de forçage de la dette au Nigeria, qu'elle a compris que le véritable enjeu qui était sous-jacent, c'était celui de l'accaparement des terres. Par tous les moyens possibles, et notamment là, ça a été l'instrument de la dette au service de la privatisation et du coup de l'établissement d'un droit foncier moderne qui individualise la propriété, parce que le problème, c'est quand on est sur des contextes où il n'y a pas de propriété de la terre ou de la propriété collective, ou que c'est très difficile de délimiter et derrière de pouvoir engager des activités économiques ou de la construction. Tout l'enjeu, ça a été de préparer le terrain. Et ça renoue avec, je reviens à ma conclusion, puisque le mois prochain, je recevrai l'anthropologue Danuta Liberski-Bagnou, qui nous parlera justement du rapport à la terre, de la souveraineté de la terre. Donc tu en parlais un petit peu, de toutes les différentes modalités qui ne sont pas des rapports de propriété, qui peuvent se jouer dans des sociétés qui ont développé d'autres manières de se rapporter à leur territoire. Voilà, donc ce sera à 19h. Toutes les informations du podcast sont à retrouver dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est sur le site afrotopique.com. Et je pense que j'ai tout dit. Donc écoutez, on va clôturer et vous pourrez retrouver donc Lycelle Quiros à la sortie, à la table de la librairie La Brèche, pour dédicacer des livres. Et puis, il y a d'autres ouvrages qui sont disponibles à cet endroit. Et j'espère peut-être qu'on fera un bonus sur la maternité et sur l'histoire de la maternité et sur... Ouais, ouais. On va s'organiser. Voilà, merci beaucoup.